Jean-François Mounet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Genfit. On va parler avec vous de votre actualité. Alors, comme pour toutes les biotech, hein, il y a énormément d'attentes des investisseurs, parce qu'ils regardent le palmarès 2016 de certaines biotech. Ça a été difficile pour eux. Ce n'est pas forcément effectivement nouveau. Comment vous envisagez-vous cette année 2017?
L'année 2017 va être marquée, bien entendu, par l'annonce d'un certain nombre de lancements de phase 2, un PBC. Dans une phase 2 dans la fibrose, mais je crois que l'élément important, il ne faut pas se le cacher, c'est l'annonce de la fin du recrutement des 1000 patients qui nous sont nécessaires pour obtenir 18 mois après la possibilité d'un NDA avec elafibranor dans la nage.
Donc ça, c'est, on va dire, le moment important pour vous de cette année. Donc on peut dire que l'année 2017, de ce point de vue-là, elle sera essentielle.
Je crois que beaucoup de gens accordent de l'importance légitimement à cet élément-là. On aura beaucoup de choses aussi dans les biomarqueurs, puisque à la fin du mois de juin, on annoncera le démarrage de la partie réglementaire. Ça veut dire que la partie discovery, découverte, sera bouclée, hein, et validée. Il y a beaucoup de choses qui avancent dans ce domaine aussi. Mais je dirais que ça fait un peu partie du package NASH. Vous savez que dans le domaine de la NASH, pour véritablement ouvrir un marché, il faut que les biomarqueurs soient au rendez-vous pour remplacer la biopsie. Et il est très clair que pour nous, c'est vraiment deux enjeux majeurs et parallèles.
On voit que ça bouge dans votre secteur, on voit aux États-Unis. À votre avis, pourquoi justement ça bouge dans la NASH? Pourquoi il y a de plus en plus d'acteurs? On a même vu en France une nouvelle société venir s'introduire en bourse.
Je crois qu'il n'y a pas qu'en France. Hein. On était 4-5 acteurs de la NASH il y a 3-4 ans. Et il y avait même des questions concernant la réalité de la maladie. Bien entendu, on avait déjà répondu, y compris face à vous, au fait que c'était une maladie qui avait une croissance exponentielle, hein, qui touchait l'ensemble des gens qui souffraient d'obésité morbide ou de prédiabète ou de diabète. Je crois qu'aujourd'hui, au moins, on a la preuve que c'est un danger de santé publique tout à fait majeur. On a derrière, effectivement, maintenant presque une centaine de sociétés. Mais ce qui est important, ce n'est pas tellement celle qui arrive, hein, parce que, vous savez, c'est comme dans une course cycliste, l'important, c'est d'être en tête. Et il y a deux sociétés en tête aujourd'hui, vous ne l'ignorez pas, c'est Intercept et nous-mêmes, hein, avec des datas qui vont, pour les deux sociétés, sortir début 2019. Ensuite, derrière, ce qui est quand même assez marquant, c'est que toutes les grandes sociétés pharma, enfin pas toutes, un grand nombre, hein, que vous connaissez, hein, Gilead, Allergan, etc., ont aussi pris des positions significatives dans le domaine. Je crois que ça valide totalement l'importance du marché, si tant est qu'il est encore nécessaire de le faire. Je crois qu'il y a beaucoup de choses aussi qui s'éclaircissent au niveau des conditions de validation clinique, et je crois que c'est également une bonne chose.
Alors, vous parlez d'Intercept justement, et ceux qui suivent ce secteur de la NASH ont noté les changements des critères lors de la phase 3, donc il y a à peu près une quinzaine de jours. Qu'est-ce que ça donne comme indication pour vous dans vos propres travaux?
Je crois qu'il y a nos propres commentaires, mais ce qui est plus important, c'est de regarder ce que les analystes, hein, ce que les observateurs les plus pointus, les plus aguerris ont pensé de ça. C'est très varié, c'est finalement assez équilibré entre ceux qui considèrent que c'est un plus pour Intercept au sens où ils ont mis la barre beaucoup moins haut, puis il y a tous ceux qui considèrent que c'est significatif de très très grandes difficultés de recrutement et qui sans doute, je dis, correspondent à peut-être une réticence, hein, des médecins investigateurs de confier leurs malades à un produit dont on sait qu'il y a quand même un certain nombre de soucis quant à la safety, le prurite, l'augmentation des risques cardiovasculaires à travers l'augmentation du LDL. Donc on peut penser, c'est ça qui a rendu quand même un peu difficile ces recrutements. Comme vous le savez, on ne connaît pas les mêmes difficultés en termes de réticence de la part des investigateurs. On est parti, nous, 6-7 mois après, hein, ou même voire plus, et on espère bien, effectivement, rester sur ce qu'on avait annoncé, c'est-à-dire pouvoir annoncer le bouclage à l'été qui vient.
Il y a des actionnaires quand ils regardent effectivement les évolutions des biotech et ils peuvent regarder celle de l'évolution de Genfit, se disent finalement elle n'est pas valorisée comme elle devrait, elle est leader dans ce secteur de la NASH, donc on a dit co-leader en tout cas. Comment on gère ça avec les augmentations de capital qui ont pu être nécessaires aussi au cours des dernières années? C'est un sujet récurrent, mais on sent bien qu'il y a une attente de leur côté.
Je pense qu'il y a une attente qui est légitime. C'est une attente qui compare la taille assez incroyable du marché. Les analystes annoncent effectivement pour Genfit le fait que Genfit sera probablement le médicament de première intention, qui sera prescrit première intention. Vous ne prescrivez pas un médicament qui pose des problèmes éventuellement de safety aussi facilement que ça. Donc le problème d'ailleurs, ce n'est pas tellement d'arriver le premier, s'ils ont 3 mois d'avance sur nous, 2 mois d'avance. Le problème, c'est d'être le plus prescrit d'abord, hein, c'est d'être la first line thérapie pour reprendre les éléments répétés de nombreuses fois. Je crois que c'est ça qui effectivement, peut-être, pose des questions quant à la valorisation. Bon, on ne va pas ressortir les arguments qui consistent à dire que la valorisation en Europe est sans doute moins bonne qu'aux États-Unis,
Oui,
mais
ça c'est ce qu'on constate.
c'est une
Oui.
réalité qu'on constate partout. D'être coté au Nasdaq dans le futur, je ne peux pas dire que ce sera dans 3 mois ou un peu plus tard, et sans doute une façon de rattraper ce retard, mais je crois que la meilleure façon, ça sera d'avoir des résultats positifs de phase 3, parce qu'à ce moment-là, la valorisation sera celle que tout le monde attend. Alors ceux qui veulent jouer sur une semaine ou 3 mois, effectivement, ça correspond peut-être pas exactement à cet agenda, mais bon, vous savez, je crois que beaucoup de gens ont investi dans le GenFit aujourd'hui avec des espoirs fondés sur la mise sur le marché des médicaments.
Alors, il y a aussi, on parlait de la NASH, peut-être de la pédagogie à faire là-dessus, et vous allez lancer la semaine prochaine hein, le NASH Education Programme avec un fonds de dotation. Quel est l'objectif justement c'est aussi de montrer que vous êtes, je dirais, à l'initiative.
Oui, puis c'est très pratico-pratique. Moi, j'ai tendance à ramener ça à un objectif essentiel. C'est il faut que l'ensemble des prescripteurs de la NASH connaissent la maladie, connaissent bien sûr notre produit, mais avant tout connaissent la maladie et ses risques très importants. Connaissent la maladie au point de pouvoir effectivement eux-mêmes avoir une approche de diagnostic fiable des patients. Alors, si on parle des hépatologues, ceux qui connaissent la NASH, parce qu'il y a aussi des hépatologues qui connaissent encore pas bien du tout la NASH, mais ça ne va pas être les prescripteurs du futur. Les prescripteurs du futur, c'est les diabétologues, c'est les médecins qui suivent les gens avec des problèmes d'obésité et toutes les conséquences cardiométaboliques, cardiovasculaires, les conséquences sur le diabète. C'est ces gens-là qui vont prescrire. C'est les médecins de ville. Et pour ces gens-là, non seulement ils auront besoin des fameux biomarqueurs dont on parlait juste avant, avec une simple prise de sang, mais ce sont ces gens-là qui ont besoin de connaître ce qu'est la NASH, ce qu'est le parcours de santé que doit suivre le malade qui souffre de ça et qui a ce risque important. Donc je crois que la fondation est là pour dire il faut éduquer tous les types de personnels médicaux et pas seulement les hépatologues les plus pointus. Puis il faut éduquer les patients pour ce que eux-mêmes demandent à leur médecin de regarder un peu leurs enzymes hépatiques, de se poser la question si ils sont pas en train de développer une maladie qui, vous le savez, reste très longtemps silencieuse, mais qui néanmoins, quand elle croît en termes de dangerosité, croît très vite. Et la cirrhose, c'est quand même quelque chose qu'on ne souhaite à personne.
Non, c'est vrai. Merci Jean-François Monnet d'avoir fait le point.
Je vous en prie, c'est un point qu'il faut faire de temps en temps.